Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, dans la chronique, je vous emmène dans les eaux claires du lac Tanganyika pour rencontrer une famille de poissons bien particulière, aux mœurs aussi diverses que leur forme et leur couleur. Je veux bien sûr parler des cichlidés. J'aurai ensuite la chance de recevoir Isabelle Cantera, docteur en écologie, actuellement postdoctorante à l'Université de Milan, qui a réalisé sa thèse au laboratoire Évolution et diversité biologique de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Elle vient nous parler de ses travaux de thèse qui portaient sur l'impact de l'anthropisation sur les communautés de poissons dans les cours d'eau de Guyane. Bonjour Isabelle et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Vous en avez assez d'être enfermé chez vous? Vous rêvez d'évasion et d'exotisme? J'ai la solution. Allez, venez avec moi, on plonge. Nous voici en Afrique de l'Est, dans les eaux cristallines du lac Tanganyika, l'un des plus grands lacs de la vallée du Rift. Avec ses 676 km de long et ses 570 mètres de profondeur moyenne, il a la même allure qu'une petite mer intérieure d'eau douce. Cet environnement unique héberge lui aussi une faune que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Chaque lac de la vallée du Rift, comme ses voisins, les lacs Malawi et Victoria, est un milieu clos. On y est un peu comme sur une île. Les animaux présents dans chacun de ces lacs forment des espèces différentes de celles présentes dans le lac voisin. On parle de spéciation. Et les habitants les plus fascinants de ces lacs sont sans nul doute les poissons de la famille des cichlidés. Dans le lac Tanganyika, on dénombre pas moins de 250 espèces différentes de cichlidés, dont la majorité sont endémiques et ne vivent que dans ce lac bien précis. Et il en reste des centaines d'autres à découvrir. Ce qui est encore plus fou, c'est que ce phénomène d'apparition de nouvelles espèces très spécialisées à partir d'une espèce ancestrale, appelée radiation adaptative, prend habituellement des millions d'années. C'était le cas pour les 14 espèces de pinsons observées par Charles Darwin dans les îles Galapagos. Chaque espèce a adopté une alimentation différente, insectes, graines, fruits, et la forme de chaque bec a changé pour s'adapter à cette consommation d'aliments particuliers. Mais pour nos poissons africains, on parle de plusieurs centaines d'espèces apparues en seulement 10 à 15 000 ans, un battement de cils à l'échelle de l'évolution. Cette radiation a donné naissance à des cichlidés de toutes les tailles. 3 cm pour le tout petit cichlidé multi et jusqu'à 80 cm de long pour le cichlidé empereur. Tous sont très différents, tant par leur aspect, leur régime alimentaire, que leur façon de vivre avec les autres. Certains vivent en banc, d'autres en groupe, d'autres encore en couple. Ils partagent cependant plusieurs points communs notables. Le premier est physique et serait vraisemblablement à l'origine de leur incroyable diversité. C'est en tout cas ce que présente la review de Tetsumi Takahashi et Stephen Klobmüller, publiée en 2011 dans le journal International Journal of Evolutionary Biology. Ces poissons possèdent non pas une, mais deux mâchoires. Vous savez, un peu comme le xénomorphe dans les films aliens. Ils possèdent donc une mâchoire classique, qui saisit les aliments, et une mâchoire pharyngienne, qui elle, les broie. La première mâchoire, hautement spécialisée, est adaptée à la saisie d'un type d'aliment donné, avec des dents précises et spécialisées. Algues, coquillages, poissons, débris. Cette spécialisation leur permet d'occuper toutes les niches écologiques du coin. Le monde, ou du moins le lac, leur appartient. L'autre caractéristique très originale de ces charmants poissons est comportementale et concerne leur reproduction. Certains cichlidés sont plutôt solos et les mâles, pour appâter les femelles, creusent des arènes circulaires dans le sol ou se bâtissent carrément des châteaux de sable en forme de petits volcans. Une fois leur construction finie, ils se mettent alors à danser et se plier en quatre pour séduire ces dames. Cet attroupement masculin où chacun défend son terrain s'appelle un lek. On peut dire que c'est un supermarché où les femelles viennent choisir les plus beaux mâles en rayon. On observe ce genre de bal des kékés où l'on roule des mécaniques chez les daims, les iguanes marins et quelques oiseaux comme les grands tétras et les cacapos. Certaines ressemblances avec nos salles de sport ne sont pas totalement fortuites. Chez Niasachromis microcephalus, un petit poisson du lac Malawi, les mâles peuvent construire jusqu'à 318 monticules au même endroit, comme le décrit l'équipe de Kyle Yang en 2009 dans le journal Behavioral Ecology. Même si la concurrence est rude entre mâles, les grands lecs attirent les femelles. C'est mieux qu'un néon géant. Une fois séduites, celles-ci pondent leurs œufs sur le terrain du mâle choisi qui vient les féconder aussitôt. La femelle les emporte ensuite ailleurs pour en prendre soin toute seule. D'autres misent sur des méthodes de sélection un peu moins honnêtes que ces parades viriles, comme a pu le décrire l'équipe de Tetsu Sato en 2004 dans le journal Ethology. Chez le poisson Neolamprologus calipterus, qui forme des harems, les mâles et les femelles n'ont pas du tout le même look. Ces messieurs sont gros et colorés, alors que leurs compagnes sont petites et ternes. Le mâle garde ses femelles et leur apporte des coquilles vides d'escargots aquatiques pour que celles-ci s'y installent et pondent leurs œufs. Le mâle sort donc ses gros muscles et accumule les coquilles. Plus il en a, plus il attire de femelles. Comme les femelles sont petites, elles peuvent intégralement rentrer dans la coquille et se protéger des prédateurs, contrairement au mâle. Bien entendu, certains en profitent et trichent. Certains mâles restent de petite taille et ne mesurent que 2,5% de la taille des gros mâles résidents. Ainsi camouflés, ils évitent les attaques et se glissent discrètement dans les coquilles d'escargots avec les femelles. Là, ils peuvent tranquillement s'accoupler avec elles, au nez et à la barbe du mâle dominant. Tout ce qui est petit fait du profit. Mais trouver un partenaire ne fait pas tout. Le succès de la reproduction se mesure à la quantité de petits engendrés. Et pour ça, les cyclidés sont des champions, car ce sont les meilleurs parents poissons au monde. Tous surveillent et protègent leurs œufs et leurs petits face aux agresseurs, un comportement plutôt rare chez les poissons. Et pour ça, ils ont deux techniques. Soit la mère seule où les parents pondent les œufs au sol et les surveillent en permanence pour éviter qu'ils se fassent manger. L'autre option, plutôt originale, consiste à garder les œufs puis les petits dans leur bouche. Ils sont ainsi protégés des prédateurs et ont bien plus de chances d'éclore. Mais tout ceci demande quelques ajustements. En effet, certaines femelles sont si craintives qu'elles cachent leurs œufs dans leur bouche dès qu'ils sont pondus, avant même qu'un mâle n'ait eu le temps de les féconder de sa semence. Ce qui a une efficacité, disons, plutôt limitée. Les poissons mâles, du genre Haplochromis, ont donc développé une parade. Ils arborent des taches colorées sur leur nageoire anale, tout près de leur organe génital. Ces taches ressemblent à des œufs. Les femelles, attirées par ces faux œufs, font mine de les gober en posant la bouche à la nageoire des mâles. Ceux-ci en profitent pour lâcher du sperme directement dans la bouche de la femelle, ce qui va permettre de féconder les œufs qui étaient déjà exposés. À tromperie, tromperie et demi. L'incubation des œufs dans la bouche présente un avantage majeur et permet une grande survie des œufs, mais elle présente aussi quelques petits inconvénients. Le hic, c'est que pendant tout le temps d'incubation des œufs, les parents ne peuvent pas manger. Cela peut durer parfois un mois. Si ça, c'est pas de l'abnégation. Chez certains cyclidés, les deux parents se relaient, 10 jours chacun, ce qui permet de grignoter un peu plus souvent. Une fois les œufs éclos, la bouche continue souvent à servir d'abri aux petits qui s'y réfugient au moindre signe de danger. Mais bien sûr, il y a une faille dans ce très beau système. Une faille qu'un parasite, le poisson-chat coucou, s'empresse d'exploiter. Quand une femelle cyclidée est repérée en train de déposer ses œufs au sol, la femelle poisson-chat pond rapidement ses propres œufs au même endroit. La femelle cyclidée gobe alors rapidement l'intégralité de la ponte et l'emmène avec elle. Dans la bouche de la mère, les œufs du poisson-chat éclosent plus rapidement que les œufs cyclidés, un peu comme chez l'oiseau coucou. Les premiers éclos s'empressent de manger tous les œufs présents dans la bouche de leur mère d'adoption. Quand les petits sont prêts à sortir, il ne reste plus que les petits du poisson-chat, que la mère cyclidée continue à protéger comme si c'était les siens. Mais rassurez-vous, les poissons-chats ne gagnent pas à tous les coups. On sait maintenant qu'une vraie coévolution existe entre le parasite et son hôte. Une étude menée par Radim Blazek et ses collaborateurs, publiée en 2018 dans le journal Science Advances, révèle que des femelles cyclidées qui ne vivent pas en milieu naturel avec le poisson-chat coucou ne rejettent pas les œufs parasites, alors que les femelles qui évoluent dans le même milieu qu'eux rejettent massivement les œufs qui ne sont pas les leurs. À force de se côtoyer depuis des millions d'années, on apprend à se méfier. De plus, les femelles qui ont déjà vécu personnellement le fait de se faire parasiter sont plus efficaces pour écarter les mauvais œufs que les femelles naïves à qui cela n'est jamais arrivé. En se débarrassant des œufs, du parasite, les femelles cyclidées augmentent aussi le risque d'éliminer leurs propres œufs. Mais la lutte contre les squatteurs est à ce prix. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Les cyclidés africains ne sont pas simplement de jolis poissons colorés qui font le bonheur des aquariophiles. Adaptés à toutes les niches écologiques, leur incroyable diversité, leur mode de vie varié en font des sujets d'études uniques qui permettent de mieux comprendre la naissance de nouvelles espèces, mais aussi l'émergence de comportements singuliers. Capables de parader comme des oiseaux, de se tromper les uns les autres et de protéger farouchement leurs petits, qui aurait pu suspecter que des poissons seraient capables d'autant d'inventivité? Il est donc bien temps de les réhabiliter. Gloire aux cyclidés! Thank you. Et nous revoici avec notre invité. Il s'appelle Cantera, docteur en écologie actuellement rattaché à l'Université de Milan et qui a mené son travail de thèse au laboratoire Évolution et diversité biologique de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Elle nous parle aujourd'hui des communautés de poissons des rivières guyanaises. Alors, commençons gaillardement. Donc vous avez travaillé sur l'impact des activités humaines sur la biodiversité dans les cours d'eau de Guyane. Alors moi j'ai envie de m'arrêter quand même sur un mot qui est important, qu'on utilise souvent, qui est celui de biodiversité. Mais c'est un mot qui peut paraître un peu abstrait. Du coup, comment est-ce qu'on le définit, la biodiversité? Qu'est-ce que c'est?
Ok, bon, ben, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Et en fait, la biodiversité, par définition en écologie, désigne toute la diversité des êtres vivants et leur écosystème. Mais en fait, cette biodiversité, on va les mesurer de différentes manières. Donc, par exemple, cette façon de la mesurer va varier en fonction de l'échelle spatiale. Donc, c'est pas la même chose de compter le nombre d'espèces qu'on trouve dans la planète ou le nombre d'espèces qu'on trouve dans l'Europe ou voire dans les Pyrénées. Mais en fait, aussi, au sein d'une même échelle spatiale, on peut décrire cette biodiversité de différentes façons. On peut, par exemple, la décrire en utilisant le nombre d'espèces, qui est la mesure de diversité plus commune, plus couramment utilisée. Mais on peut aussi quantifier la diversité génétique, donc la variabilité génétique au sein d'une même espèce. Et récemment, en tout cas en écologie, on utilise une autre facette de la diversité qui est la diversité fonctionnelle. Et donc, par exemple, la diversité fonctionnelle, ça va être le nombre de fonctions que les espèces vont avoir dans leur environnement, donc les rôles des espèces dans leur environnement.
Donc par exemple, si on pense à un environnement donné, ça va être par exemple tous les animaux prédateurs, ils occupent la même fonction, ça serait cette idée-là.
Exactement, ouais. Et effectivement, ce n'est pas la même chose avoir trois espèces prédatrices qu'avoir une espèce prédatrice, une espèce herbivore et une espèce détritivore. Et notamment, en fait, dans ce qui est les effets des impacts humains sur la biodiversité, c'est une facette dans laquelle on s'intéresse de plus en plus, parce qu'il a été montré que pour des petits impacts, par exemple des impacts pas très intenses, on peut avoir, si on compare des sites perturbés et des sites non perturbés, on peut voir que la diversité en richesse spécifique, elle ne va pas changer. Mais en fait, ce qui va changer, c'est la composition en espèces. Donc on va avoir des espèces différentes entre ces différents sites, mais qui du coup ils vont avoir des fonctions différentes. Notamment parce que dans les sites perturbés, on peut avoir des espèces généralistes, plus résistantes, qui vont venir s'implanter. Et du coup, on peut, malgré un maintien de la richesse spécifique, on peut avoir une perte de cette diversité fonctionnelle.
Donc ça veut dire qu'il y aurait potentiellement toujours plein d'espèces différentes, mais au niveau des fonctions, il y en aurait moins, c'est ça, par exemple?
C'est ça, ouais.
Et ça veut dire que dans les zones impactées, on aurait des animaux plus généralistes que dans les zones préservées, c'est-à-dire qu'il y a plutôt des animaux qui savent un peu tout faire plutôt que des animaux très spécialisés sur une fonction donnée.
Ouais, exactement, c'est le patron général, ouais.
D'accord, et donc biodiversité, donc vraiment c'est ça, c'est une quantité d'espèces, mais on peut voir aussi bien le nombre d'espèces, donc ça c'était la biodiversité
spécifique ou taxonomique aussi.
Taxonomique, ouais. Et la fonctionnelle, où là on voit vraiment qui occupe chaque zone.
Et qui fait quoi et comment.
Et biodiversité, du coup, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est vraiment bien à la fois les animaux, les plantes, les bactéries, c'est vraiment tous les êtres vivants.
C'est tous les êtres vivants, ouais.
En plus, est-ce qu'on va s'intéresser par exemple au côté, aux minéraux, à l'eau, etc. ou c'est vraiment que espèces vivantes?
Non, c'est vraiment que, quand on parle de biodiversité, c'est que espèces vivantes.
Ok. Bon, c'est plus clair. Déjà, ça aide à y voir un petit peu plus clair. Alors, on l'a dit, vous avez travaillé pendant quelques temps en Guyane. Je voulais savoir un petit peu, donc vous avez travaillé sur les cours d'eau, on va le détailler un petit peu plus, mais quelles sont les particularités de ces cours d'eau en Guyane?
Et oui, donc ces cours d'eau en Guyane, donc déjà, le réseau hydrographique guyanais, il est très dense. Donc on a beaucoup, beaucoup de petits cours d'eau qui traversent la Guyane. Et ces cours d'eau, ils sont habités par des espèces de poissons qui sont communes à la faune amazonienne.
D'accord.
Donc même si ce n'est pas irrigué par le bassin de l'Amazone, de la rivière de l'Amazone, c'est quand même une forêt amazonienne avec toutes les caractéristiques et la faune des espèces amazoniennes. Et donc, qu'est-ce qui caractérise les espèces amazoniennes? Donc on va avoir une très forte diversité, donc beaucoup, beaucoup d'espèces de poissons. Et aussi des espèces très différentes avec des traits morphologiques très particuliers. Et une autre chose qui caractérise cette diversité amazonienne, voire tropicale, c'est qu'on a beaucoup d'espèces rares. Donc des espèces rares, ce sont des espèces qui vont être très restreintes dans leur aire de distribution, mais aussi qui vont avoir peu d'individus par espèce. Donc
d'accord,
ils vont être très endémiques, du coup on ne va pas pouvoir les retrouver partout, ou en très faible nombre.
Comme nos cyclidés du lac Tanganyika.
Exactement.
On les trouve que dans certains coins. Et ça, ce nombre important d'espèces rares, c'est dû à quoi ? C'est parce que c'est un environnement tropical, que la température, les milieux de vie font qu'il y a cette explosion de poissons différents ? Qu'est-ce qui explique ça ?
Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Et c'est que ben déjà l'histoire biogéographique de l'Amazonie, avec les fleuves qui ont fragmenté les aires de distribution, avec les variations climatiques du quaternaire qui ont créé des refuges d'espèces et des processus de colonisation et de recolonisation. Et il y a aussi des hypothèses comme quoi les fortes températures peuvent augmenter les taux de spéciation des espèces.
Et donc juste en fait, le fait qu'il y ait plein de ruisseaux de fleuves différents, ça fait vraiment des zones distinctes où les espèces différentes peuvent émerger.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au bassin de l'Amazonie ou il y a d'autres zones tropicales qui ressemblent ou pas du tout ?
Le bassin de l'Amazonie, il a eu vraiment une histoire géographique très complexe avec des périodes interglaciaires et glaciaires et des incursions marines qui ont fait que en fait, ça arrivait très souvent dans peu de temps.
Oui, et puis c'est ça aussi, c'est vrai qu'en Amazonie, il y a ce très grand fleuve, l'Amazone, qui est gigantesque, qui va se jeter dans la mer. Du coup, il y a des zones où il y a un petit peu d'eau salée, un peu d'eau douce, il y a ces mélanges-là.
Oui.
Mais vous, vous travaillez vraiment uniquement sur de l'eau douce ?
Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Que sur l'eau douce, oui.
Mais vous avez travaillé à la fois donc, près des fleuves, donc vraiment ces grands cours d'eau, mais aussi les ruisseaux. Alors, moi, je suis totalement naïve sur la question. Qu'est-ce qui va différencier ces deux cours d'eau entre un fleuve et un ruisseau ? Est-ce que c'est un environnement différent ? Est-ce qu'on trouve des espèces différentes ? Qu'est-ce qui les distingue ?
Du coup, donc pour commencer, les cours d'eau ils font partie d'un réseau hydrographique hiérarchique. Donc, on va dire que les petits cours d'eau ils vont s'originer dans les zones d'altitude par des sources d'eau naturelles. Et donc, ça va être des petits cours d'eau étroits, avec peu de profondeur, avec pas mal d'ombre parce qu'il y a la forêt. Et ensuite, ils vont se jeter sur d'autres cours d'eau plus grands. Et du coup, ça va grossir au fur et à mesure jusqu'à arriver au fleuve, qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus profond, avec moins de courant parce qu'il y a moins de pente.
Donc ah oui, j'avais pas pensé à ça. J'aurais pensé qu'il y avait plus de courant dans le fleuve, mais en fait, non.
Il y a plus de débit, en tout cas, ouais. dans les zones de pente. Et donc, des milieux plus stables, beaucoup plus grands, avec beaucoup plus de diversité d'habitat au même milieu, qui vont se jeter dans l'eau. Donc, on parle en écologie aquatique, on parle du gradient amont aval, donc où naît la rivière ou jusqu'à qu'elle se jette dans l'eau. Et du coup, il y a un concept qui s'appelle le concept du continent fluvial, qui explicite que en fait, les conditions physiques de la rivière, ils vont varier de l'amont à l'aval. Et en fait, les communautés qui vont s'articuler autour de ces conditions, ben, du coup, elles vont changer aussi pour répondre à ce changement de conditions environnementales.
Oui, et puis du coup, en amont, comme vous le disiez, c'est quand même très ombragé, donc il n'y a pas du tout le même accès au soleil. Donc, j'imagine qu'au niveau même des algues, etc., donc des poissons, ça change pas mal de choses.
Ouais, niveau de température aussi, donc ça va être plus froid, donc les espèces qui ne supportent pas les températures froides, ils vont plutôt rester en amont, et celles qui ont des températures plus chaudes, ils vont rester en aval. Celles qui résistent très bien le courant, elles vont rester en aval, et celles qui ne le résistent pas, ils vont
j'imagine, un peu naïvement sans doute, que les plus gros poissons, ils sont peut-être plutôt dans le fleuve, là où il y a aussi plus d'espace, plus de débit, les petits ruisseaux.
Oui, exactement. Ouais. Où ils vont avoir aussi souvent les grosses espèces et des prédateurs, donc ils vont pouvoir avoir de gros poissons pour manger, et comme ça. Donc en fait, du coup, ça fait deux environnements différents, des processus qui vont impacter la formation des communautés différentes, et du coup, des espèces, des assemblages de poissons différentes entre les petits cours d'eau et les fleuves. C'est pour ça que dans ma thèse, moi, je les travaille séparément.
Il faut aller voir les deux. Mais donc, quand vous parlez de communauté de poissons, pour être bien clair, c'est des rassemblements de poissons, mais qui ne sont pas forcément de la même espèce ?
Oui.
Ouais.
Ouais. Et du coup, en fait, en écologie, en tout cas, moi, j'ai fait ma thèse en écologie et communauté. Donc, on travaille en communauté, et une communauté va être des populations d'une même espèce. Différentes populations d'une même espèce qui vont cohabiter et partager l'environnement, et qui vont potentiellement avoir d'interactions entre elles.
Oui, parce que j'imagine qu'il y a des poissons, on parlait des gros prédateurs, souvent ils sont solitaires, ils ne sont pas du tout en banc, alors qu'il peut y avoir des petits poissons qui sont en groupe, qui sont d'une même espèce ensemble.
Oui, exactement.
Ouais. Donc il y a un petit peu tous les modes d'organisation. Quoi.
Exactement, oui.
Et on l'a vu, en fonction de l'amont, de l'aval, ce sont des zones différentes. Du coup, je voulais un petit peu voir quel type de fonction ces poissons peuvent occuper. On parlait de toute cette variabilité fonctionnelle, le fait qu'il y ait des animaux, prédateurs ou autres. En Amazonie, en Guyane, quelles grandes fonctions on peut retrouver occupées par... Parce que les poissons, comme ça, on se dit, bon, il n'y a pas des milliers de possibilités. Ouais. Mais en fait, si. C'est tout un écosystème, donc ils ont chacun leur fonction.
Et ouais, du coup, bon, on peut avoir différentes sortes de définir ces fonctions, mais par exemple, on peut caractériser les poissons en fonction de leur emplacement dans la colonne d'eau. Donc, on va avoir les poissons qui vont être un peu tout le temps dans le fond, donc on appelle les poissons benthiques. Et du coup, c'est des poissons qui souvent, ils vont pas trop bouger, ils vont rester un peu sédentaires, un peu solitaires, qui vont se nourrir des algues qui sont dans les roches ou des sédiments. Et du coup, ces types de poissons, ils vont avoir des fonctions importantes dans tout ce qui est échange avec le sol, recyclage de nutriments, régulation des cycles biochimiques. Et ensuite, on peut avoir aussi des poissons qui vont être que sur la surface, donc on appelle des poissons pélagiques. Et ces poissons, en fait, ils vont se nourrir dans tout ce qui flotte dans l'eau et ils vont avoir plus d'échanges avec la surface
avec
terrestre.
l'extérieur, ouais.
Et aussi, on a des poissons qu'on appelle bentopélagiques qui vont se balader dans la colonne d'eau. Ouais.
Ouais.
Et aussi, on a, par exemple, on peut définir les différentes fonctions en fonction de le régime alimentaire. Donc, on va avoir des prédateurs qui vont, du coup, réguler
manger d'autres poissons.
La chaîne alimentaire, ouais. Après, on va avoir les herbivores, les détritivores qui vont manger la matière organique en suspension, les invertivores, enfin un peu de tout, quoi. Mais un peu ce qu'on trouve partout, ça, par contre, c'est...
Mais par exemple, ça peut arriver qu'il y ait des poissons suffisamment gros pour qu'ils mangent plus gros que des poissons, qu'ils s'attaquent à des oiseaux, des mammifères, des choses comme ça, ou pas trop? Moi, j'imagine l'exotif, les bêtes énormes.
Il ouais, y a des vidéos d'un poisson qui mange une noix, d'ailleurs. Mais non.
C'est surtout avec les autres poissons.
Surtout,
quoi.
C'est avec les autres poissons. Je pense qu'il peut arriver à se détruire rare, mais non, normalement, non.
Et justement, donc en Guyane, forcément, c'est quand même... pas les mêmes poissons que ce qu'on trouve en France métropolitaine. Est-ce qu'il y a quelques poissons un peu emblématiques qu'on trouve en Guyane qui sont... voilà, on pense poisson guyanais.
Mais en tout cas, le poisson le plus emblématique qu'il y a en Guyane, je pense, c'est un poisson qui s'appelle Oplea saimara et que les Guyanais, ils l'appellent l'aimara. Et c'est un poisson qui est le plus grand prédateur des cours d'eau guyanais. Il peut aller jusqu'à plus d'un mètre
un beau poisson.
De longueur, ouais, et du coup qui est beaucoup beaucoup pêché. Donc les gens ils s'amusent à pêcher le plus gros.
Ok.
Parce qu'en plus il se mange bien. Et donc lui dès que tu le vois bouger dans l'eau, tu sens une espèce de bloup 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 bloup.
Ah ouais, tellement
il
voit quoi.
Ouais, tellement il est gros. Donc je pense que ouais c'est le plus emblématique.
Facile à repérer. Et alors on va détailler dans la deuxième partie un peu comment vous avez travaillé, mais donc vous avez échantillonné plusieurs zones à la fois en fleuve et en petit cours d'eau. Mm-hmm. Combien d'espèces de poissons vous avez pu comme ça recenser pendant vos travaux?
Bon, déjà en Guyane on a plus de 400 espèces décrites, ce qui est énorme.
Et juste en eau douce,
oui, exactement, juste en eau douce, ce qui est assez grand. Et après, moi, ce que j'ai pu échantillonner par site, ça pouvait aller de 5 espèces jusqu'à, je pense que le maximum que j'ai eu, c'est 80. Disons qu'en moyenne, entre 30 et 4. Après, plus le cours d'eau il est grand, plus on avait d'espèces, si le cours d'eau n'était pas impacté.
Eh bien, on vous laisse barboter dans la zic comme des poissons dans l'eau, le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas. On revient tout de suite sur Campus.
De ton filet, 100 poissons, 1000 poissons, 100 000 poissons, de ton filet. Vois comme il frétille, vois comme il scintille au soleil nouveau. Vois les gens du village partir à la nage, les tirer de l'eau. De ton filet, 100 poissons, 1000 poissons, 100 000 poissons, de ton filet. Vois ces gens qui s'apprêtent à faire une fête sur ton vieux. vieux bateau. Voir la flamme qui flambe autour de leurs jambes. Vois comme ils sont beaux.
C'était 100 000 poissons dans ton filet par Christiane Legrand. Vous êtes bien sur Campus FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui notre invité, il s'appelle Cantera, docteur en écologie actuellement rattaché à l'Université de Milan et qui a mené son travail de thèse au laboratoire Évolution et diversité biologique de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Elle nous parle de ses expériences de terrain en Guyane pour inventorier les poissons de rivière. Alors on l'a un peu évoqué dans la première partie, le but de votre travail de thèse c'était d'évaluer l'impact des activités humaines sur les communautés de poissons, donc en eau douce, dans ce fameux bassin de l'Amazone en Guyane. Alors moi je voudrais un petit peu savoir, parce que là, nous, on est dans le gris de l'hiver, imaginez la forêt tropicale. Alors comment ça se passe concrètement, vos expériences, à quoi ressemblait votre terrain? Comment ça se passait?
J'ai fait deux sessions de terrain. Parce que j'étais tout le temps basée à Toulouse, mais je suis partie en Guyane pour faire le terrain. Donc je suis partie deux fois, on va dire autour de deux mois, pour les deux sessions. Et en fait, donc l'idée, c'était la première année, j'ai échantillonné les rivières vierges, donc qui étaient très peu impactées. Vierge, ça veut dire qu'il faut s'éloigner.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est plus compliqué à trouver.
Ouais, et du coup, donc c'était des endroits où il fallait faire beaucoup de pirogues pendant plusieurs heures, sous le soleil, des fois la pluie. Et ensuite, on arrivait dans la forêt, on restait une semaine avant de retourner sur Cayenne ou sur Kourou. Et là, dans la forêt, on montait dans con avec la mac et tout. Et après, j'allais échantillonner l'eau. Je pense qu'on va parler plus après avec détail, mais je filtrais de l'eau pour capturer de l'ADN. Et du coup, voilà, c'est une technique qui dure à peu près une demi-heure. Donc, je restais une demi-heure en train de tenir mon matériel pour échantillonner. Et du coup, voilà, c'était ça, comme ça que ça marchait.
Et il n'y a pas de rencontre des fois inattendue quand on reste les pieds dans l'eau dans une rivière guyanaise?
Ben, j'ai eu de la chance, non. Par contre, c'était plus souvent des rencontres chouettes, comme des oiseaux qui venaient se poser ou des choses comme ça.
C'est toujours agréable.
Ouais, ça c'est. Ouais.
Mais parce qu'on oublie aussi, mais donc la Guyane, c'est un climat tropical. Donc vous y étiez aux saisons sèches ou humides?
Et du coup, nous, on est gentil pendant la saison sèche, parce que pendant la saison humide, il y a trop d'eau et il y a des endroits où c'est trop difficile d'accéder.
Donc si le courant est plus fort ou complètement.
Et puis pour échantillonner, comme on échantillonne avec de l'ADN environnemental, c'est du matériel quand même électrique. Et du coup, on ne peut pas le faire sous l'eau parce que sinon tout se casse.
Ah oui, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a du matériel électrique, mais il ne faut pas le mettre trop près de l'eau quand même.
C'était ça qui était un peu challenging. Ouais. C'était ça qu'il fallait être dans l'eau, mais pas trop.
Le juste milieu.
Ouais.
Mais ça veut dire qu'à chaque fois, donc là c'était dans les zones préservées, donc tout ce qui est forêt vierge, et dans les zones qui étaient davantage impactées, c'était près de Kourou, près de Cayenne, comment ça se passait?
Dans les centres qui étaient plus impactés, du coup, c'était beaucoup plus facile d'accès. Pour ce qui était habitation et orpaillage légal, parce que du coup, c'était près de routes, près de villages, donc on allait en voiture souvent, et on avait des carvés, ce que les Guyanais appellent des carvés.
C'est les espèces de maisons, c'est ça, ouvertes?
Oui, dans la forêt. Donc c'était plus confortable. C'était moins beau, mais plus confortable.
Oui, parce que pour les zones plus reculées, c'était juste un hamac dans la forêt, sans abri davantage.
Ouais, non. Après, on mettait une vache quand on voyait qu'il allait pleuvoir. Mais sinon, c'était juste la vache, le hamac. Et après, il fallait se baigner, doucher dans la rivière, faire les besoins dans la forêt, et manger dans la forêt, tout ça.
Et pareil, il n'y a pas de risque de tomber sur un tapir, un jaguar, une bestiole un peu...
Si, il y a des serpents sur ça.
Ouais, des serpents.
Il y a des risques, il faut faire attention. conscient. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir croiser un jaguar, ce qui, quand tu arrives en Guyane, tout le monde te dit « Ah, j'espère que tu croiseras le jaguar, parce que c'est le truc que tout le monde veut faire. » Et moi, j'ai eu la chance de le voir traverser une rivière. J'étais en pirogue et il était en train de traverser la rivière. Du coup, il galérait un peu. Et donc, lui, il avait peur et pas nous. Donc, on a pu être hyper proche de lui et tout, et le voir très très bien. Donc ça, wow, c'était très chouette. Ouais. Mais c'est rare. Hein, c'est
bah
rare.
Oui, c'est impressionnant. C'est quand même un animal qui évite plutôt de nous croiser.
Mais par contre, j'ai pas vu d'anaconda, donc on peut pas tout voir.
Mais pareil, je suis pas sûre qu'on aime les voir de trop trop près, les anacondas. Non. Bon,
c'est sûr, mais... Ouais.
Mais ouais, du coup, c'est, de quand loin, même, oui. C'est quand même des conditions un petit peu particulières. Donc ça peut un peu faire rêver, se dire waouh, la forêt vierge, mais pendant 2 mois, ça veut dire aussi être sans maison forcément dure, sauf dans le cas des carbets quand on était sur les zones plus impactées, avec du coup, parce que c'est des températures, même en saison sèche, il fait quand même plus de 25 degrés.
Ouais, il fait, pendant la journée, il fait très chaud. Surtout quand il fallait marcher, bah, du coup, ouais, on fait que transpirer. Et après, le soir, par contre, non, c'est assez doux.
Ça tombe un peu.
Et, ouais, mais oui, après, c'est un rêve, c'est une aventure, mais il y a aussi le côté pas confort. Il faut se lever tôt parce qu'on est là pour échantillonner, on peut pas perdre du temps, il faut aller rapidement et tout ça, quoi.
Puis, on parlait des zones impactées. Du coup, ces zones-là, donc quand on parle d'impact, c'est quoi ? C'est de la pollution dans de l'eau ? C'est la déforestation ? Parce que c'est aussi des zones qui ne sont pas forcément très joyeuses à aller visiter, quoi.
Ouais. Et du coup, en fait, nous, on a échantillonné des zones qui étaient exploitées par l'or, par des, qu'on appelle leur paillage illégal. Mais bien sûr, en aval, pas à côté de mines. On a échantillonné des rivières exploitées par l'or de façon légale.
D'accord. Ah, parce qu'il y a les deux, du coup. Il y a à la fois du légal et du clandestin.
Oui, il y a les deux. Ouais.
Okay.
Et après, aussi, on a aussi échantillonné des rivières plutôt impactées par des habitations, par de l'agriculture, par la déforestation, plus dues à l'implantation humaine, quoi.
Et pour revenir un peu sur la question de l'or, parce que c'est vrai que c'est une question que nous, on ne connaît pas trop en France métropolitaine, comment ça se passe en fait ? C'est-à-dire qu'il y a, dans l'eau de la rivière, il y a des paillettes d'or et les gens essaient de les récupérer ? Comment ça se passe ?
C'est ça. Bon, je vais essayer de l'expliquer de façon claire. Mais on va dire que l'or, il est en profondeur dans la roche, bien
d'accord,
profond.
Donc vraiment dans le fond du cours d'eau, quoi.
Non, avant, il est dans la roche. Avant, d'accord. Dans la roche, mais c'est une exploitation qui est très difficile parce qu'il faut une mine à ciel ouvert. Donc c'est un peu plus rare de faire ce type d'exploitation. Mais en fait, par érosion de la roche, elle peut se trouver dans l'eau.
D'accord.
Donc elle va se poser dans les fonds de l'eau, oui, au fond. Et ensuite, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détruire le fond. Donc, par exemple, avec des pelles ou des jets d'eau très intenses, ils vont détruire tout ce fond pour faire ressortir l'or. Ils vont prendre ce mélange de minéraux, un peu avec de minéraux et boue, qui vont ressortir de la rivière et ils vont le mettre en dehors. Et là, ils vont séparer l'or du reste. Et l'or, il va être séparé avec du mercure. Donc, le mercure, ce qu'il va faire, c'est qu'il va amalgater l'or, donc il va le mettre ensemble.
Le coller, quoi. Ouais.
Oui, voilà. Et du coup, pour ce qui est l'or paillage légal, normalement, tout ce mélange, il faut le mettre dans des bassins de décantation.
Pour que le mercure ne retourne pas dans...
Pour que le mercure et tout la boue qui sont mélangés et perturbés, ils ne reviennent pas dans la rivière. Mais comme leur paillage est légal, du coup, il faut le faire vite, il n'est pas régulé. Ce qu'ils font, c'est qu'ils remettent tout ça dans la rivière.
Ouais, donc du mercure dans les cours d'eau, j'imagine que ce n'est pas terrible.
Non, ce n'est pas terrible. C'est pas terrible parce que déjà, c'est pas terrible d'avoir tout ce sédiment en plus, déjà, mais le mercure en plus, en fait, il subit un processus de bioaccumulation. Ça veut dire qu'il va être assimilé par les plantes, les invertébrés. Ensuite, les poissons, ils vont manger ça. Donc, ils vont avoir des concentrations beaucoup plus fortes. Et les populations autour, ils vont manger ce poisson qui est plein de mercure. Et
puis, c'est hautement toxique. Même pour l'être humain, les gens qui le manipulent quand ils font leur paillage, c'est aussi dangereux pour
eux. Ça aussi, niveau conditions de travail, c'est complètement indigne. Mais en plus de ça, en fait, en Guyane, il y a beaucoup de communautés amérindiennes encore qui vivent et en dépendent de la forêt et de la rivière et qui pêchent pour se nourrir. Et du coup, tous ces gens, ils se retrouvent confrontés avec des taux de mercure très élevés.
Donc il y a des conséquences directes. Donc en plus de dégrader du coup l'environnement, ça dégrade aussi le mode de vie des gens qui y vivent, en plus des animaux.
Exactement.
Quoi.
Donc, Et en fait, ça a été montré qu'avoir des teneurs de mercure comme celles qui sont trouvées, ça peut avoir des problèmes pour le développement embryonnaire des femmes enceintes, par exemple.
Et ça, on pense qu'il y a déjà des conséquences aujourd'hui ou ça sera dans 10 ans ou...
Il y a déjà des conséquences aujourd'hui, mais bon, ça va être encore pire.
Ça sera pire, quoi.
Ouais. Et après, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'en fait, quand on fait tout ce processus dans l'eau, mais du coup, ça va complètement détruire les fonds de l'eau.
Ouais.
Donc, on va avoir des sédiments beaucoup plus meubles, enfin, beaucoup moins fermes. Moi, j'ai échantillonné des rivières orpaillées qui ont enfoncé, en fait. Tu ne pouvais pas marcher à travers la rivière parce que tu t'enfonçais.
Ouais.
Et ensuite aussi, comme on a beaucoup de particules de matériaux en suspension, la turbidité, elle va beaucoup augmenter. Donc les organismes qui sont dedans, ils vont avoir moins de lumière, ils vont moins bien boire pour pêcher, ils vont avoir des problèmes dans les branchies, et tout des trucs comme ça.
Puis on parlait tout à l'heure des poissons qui sont sur le fond, etc. J'imagine que si on détruit le fond de la rivière, tous ces poissons-là, ils ne peuvent plus rester là. Enfin,
et c'est exactement ce qu'on a trouvé.
Ouais. Oui, parce que
bien joué.
Hey. Ouais, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé au fait que la visibilité aussi était réduite et que du coup, ça changeait plein de choses. Mais je me demande même aussi au niveau de la lumière, par exemple, pour les algues, s'il y a beaucoup de... Enfin, si ça obscurcit, au final, peut-être que les algues ont du mal aussi à pousser.
Exactement, c'est aussi un autre problème qu'on a. Il y a beaucoup moins de développement des algues.
Et l'orpaillage clandestin, il y a beaucoup de mines comme ça clandestines en Guyane ou ça reste quand même assez rare?
Déjà, il y a plus de surface déforestée par l'orpaillage illégal que par l'orpaillage légal.
Okay.
Et en fait, ça fait que ça grandit. Et oui, il y en a de plus en plus. Ça a beaucoup augmenté en 2018 avec l'augmentation du prix de l'or.
Ah ouais.
Et du coup, le prix de l'or il a beaucoup augmenté, tout le monde est
tout
parti dans la forêt pour pouvoir avoir de l'or.
Normal. Normal.
Après, ça reste quand même la Guyane, ça reste moins impacté que ce qui peut être le Brésil, le Suriname.
Où il y a aussi cette même problématique, il y a aussi de l'or dans les bassins, dans ces zones-là. Alors, sinon, revenons à nos poissons. On en a parlé, donc votre protocole nécessite d'aller dans l'eau et de faire des échantillons d'eau. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous utilisez l'ADN environnemental. Du coup, j'avais envie de voir avec vous, qu'est-ce que c'est que cet ADN environnemental? D'où est-ce qu'il vient? Et vous, qu'est-ce que vous en faites?
Et du coup, alors, il s'avère que les poissons, ils laissent des traces dans la rivière de leur présence via les fesses, les urines... les tissus qui se dégénèrent,
les cellules, renouvellent leurs écailles, etc.
Le renouvellement cellulaire, des écailles, quand ils font des régurgitations, quand ils meurent, quand ils saignent. Enfin, il y a plusieurs façons, mais en tout cas, ils laissent des traces d'ADN qui traînent dans l'eau. Et du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait un tube dans l'eau qui était relié à une visseuse qui servait de pompe pour pomper cette eau qui va être amenée à un filtre. Avec une porosité pour garder que l'ADN et bien sûr des particules qui ont la même...
C'est assez fou, j'ai du mal à imaginer un tamis qui soit suffisamment petit pour garder que l'ADN, parce que l'ADN, on s'imagine que c'est tout petit.
Après, c'est de l'ADN, en fait, c'est de l'ADN qui il s'adhère quand même à des particules.
D'accord.
À des particules. Et du coup, on garde l'ADN et cet ADN, après, on l'extrait. Et on l'amplifie, on le séquence pour avoir différents codes génétiques des différents organismes qu'on trouve dans l'eau. Et après, ces différentes séquences qu'on peut avoir, ces combinaisons de nucléotides, on va les comparer à d'autres séquences qu'on a dans une base de référence. Et avec des comparaisons, on peut voir ces séquences à quelle espèce correspondent.
Donc, à partir de l'ADN qu'on récolte dans l'eau, vous avez une base avec en gros l'ADN de tous les poissons que vous êtes susceptible de croiser et vous comparez pour voir, moi j'ai croisé telle espèce.
Oui.
Mais ça veut dire qu'il faut cette nécessité d'avoir en amont attrapé tous les poissons pour voir à quoi correspondent leur ADN.
D'ailleurs, la base de référence, c'est le pilier de cette méthode. Il faut avoir une bonne base de référence. Et c'est mieux si c'est une base de référence très locale avec les espèces de la région et qui se trouve en Guyane. Et en fait, effectivement, ça prend beaucoup de temps. La base de référence du projet, elle a été commencée depuis 2013-2014. Donc ça fait longtemps que mon directeur de thèse travaille sur ça. Et en plus, on a beaucoup d'aide parce qu'on est en collaboration avec un bureau d'études qui fait du suivi de la qualité d'eau avec l'ADEAL et l'Agence de l'eau. Et du coup, eux, à chaque fois qu'il y avait un poisson qu'on n'avait pas encore dans notre base de ref, ils prenaient un bout de nageoire pour qu'on puisse avoir l'ADN.
Donc ça veut dire que ces gens, ils se mettent en embuscade dans les ruisseaux, ils attrapent les poissons, ils font un petit prélèvement, ils relâchent le poisson, ouais. Et comme ça, ça peut le mettre dans la bibliothèque. Ouais, quoi.
Ils font de suivi de la diversité, du coup ils mettent des filets et où ils capturent des poissons, et quand on a la chance d'avoir un poisson qu'on n'a pas dans la base de référence, ils le gardent. Enfin, il faut dire que maintenant, avec la base de référence qu'on a, les poissons qu'on n'a pas, c'est des poissons qui se capturent très, 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 très rarement. Et c'est pour ça qu'on ne les a pas.
Parce qu'ils apparaissent, ouais. Et puis comme on le disait, il y a beaucoup d'espèces rares dans ces coins-là.
Oui, exactement, donc, c'est ça.
Ouais, donc c'est quand même assez impressionnant. Et moi, je me posais juste la question, est-ce que, parce que l'ADN donc, qui donne l'information sur le code génétique de chaque individu, quand il est... Donc on parlait, il peut venir de plein de sources différentes, que ce soit les excréments, l'urine, etc. Quand il est dans l'eau, est-ce qu'il n'est pas abîmé? Parce qu'on peut se dire, si. C'est pas aussi clean que faire une prise de sang, ce genre de choses. Et comment est-ce qu'on fait pour être bien sûr... Enfin, et puis aussi, comment on fait pour analyser l'ADN? Parce que j'imagine que quand il y a 50 poissons dans la même zone, comment est-ce qu'on fait pour savoir quel bout appartient à qui?
Ben oui, effectivement, ça c'est un des plus challenges de la méthode, c'est qu'en fait l'ADN, il n'est pas en bonne qualité. C'est pour ça que des fois, nous, on se retrouve avec des séquences qui ne sont pas suffisamment larges ou en bonne qualité pour pouvoir les assimiler à notre base de référence.
On n'est pas sûr.
Ouais. Nous, on travaille sur un seuil de similarité. Donc, on prend une séquence avec sa combinaison de nucléotides et on voit si à plus de 99%, il se ressemble à une séquence de notre base de rêve, on la prend et on l'assimile. Okay. Si elle est en-dessus de ce seuil, ben, on ne peut pas l'analyser.
Dans le doute, c'est une donnée qu'on ne peut pas
garder. Des fois, on peut se dire, ouais, ça ne correspond pas à cette espèce, mais ça correspond à ce genre ou à cette famille. Mais des fois, ouais, effectivement, on ne peut pas aller jusqu'à l'espèce.
Oui, c'est ça, parce que ça veut dire que des poissons, même s'ils sont d'espèces différentes, mais qu'ils appartiennent au même genre, à la même famille, ils ont quand même des points communs dans leur séquence ADN. Donc on peut retrouver des bouts. Quoi.
Et d'ailleurs, on a des genres qui, au niveau génétique, ils se ressemblent tellement que des fois, on ne peut pas discriminer l'espèce.
C'est ce genre-là.
C'est ce genre, exactement, ce genre-là, parce que voilà, ils se ressemblent tellement génétiquement que. Parce que des fois, tu sais, l'espèce, elle est séparée parce qu'il a une tache.
Oui, c'est un tout petit détail.
Des fois, c'est assez difficile de discriminer.
Et donc, avec ces informations-là, l'idée, c'est vraiment de savoir quelle espèce, ou en tout cas, quel genre de poisson on trouve dans chaque zone. Mm-hmm. Et est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, quelle quantité de poissons on a? Ou ça, c'est pas possible avec cette méthode-là?
Ben, on va dire que c'est en progression. C'est un peu le prochain but. Mais là, actuellement, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, souvent, il y a des méthodes où ils essaient de corréler le nombre de séquences qu'on obtient avec la biomasse ou le nombre d'individus que tu peux retrouver par chaque espèce. Mais le problème avec ça, c'est que, par exemple, un gros poisson solitaire, peut-être qu'il va larguer la même quantité d'ADN que plusieurs petits poissons qui sont ensemble.
Ouais.
Ou un poisson qui est très mobile et qui se frotte contre une pierre, peut-être qu'il va libérer plus d'ADN qu'un poisson qui ne bouge pas.
Ouais, complètement.
Donc là, ça c'est une limite de la méthode, c'est qu'en fait, on a juste de données, en tout cas pour les poissons en milieu tropical, on a juste de données de présence-absence. On ne peut pas savoir combien il y en a. On ne peut pas savoir non plus, on ne peut pas avoir de données morphologiques, comme ce que tu as avec les pêches, le poids, la largeur ou la coloration, par exemple.
Ouais. Mais est-ce qu'on a aussi un indice un peu temporel? Est-ce que l'ADN, il se conserve longtemps dans une zone donnée ou pas?
Et ça, il y a aussi une incertitude par rapport à ça. Il y a des études qui montrent que dans des mésocodes ou dans des aquariums, ça peut durer entre 2 jours et voire 3 semaines.
Donc, ah oui, c'est une grande fourchette, mais ouais. Ça reste quand même, c'est pas sur 5 ans.
C'est pas des années,
quoi. Ouais, complètement.
Ça a quand même un taux de dégradation, quoi.
Mais c'est quand même assez fou de se dire que juste en récupérant des échantillons d'eau, on peut savoir tous les poissons qui sont passés là, dans une,
ouais.
Parce que c'est pas du tout invasif, pas besoin. À part pour attraper les poissons pour faire la base de données, mais on les relâche, c'est moins de travail, entre guillemets, parce qu'après il faut quand même analyser toutes les séquences d'ADN en laboratoire. Mais,
oui.
Mais je trouve ça assez fou de se dire que rien que l'eau peut donner toutes ces informations-là.
Mais oui,
quoi.
Oui. C'est un peu comme quand on est sur une scène de crime et on veut trouver l'assassin.
Complètement.
On va chercher les traces de ce qui s'est passé. Et effectivement, c'est pour ça que la méthode, dès qu'elle est sortie, en fait, tout le monde s'y intéresse. C'est parce qu'en fait, en termes de pratique, ça coûte moins cher et ça va beaucoup plus vite. Tu peux échantillonner beaucoup plus vite et beaucoup plus grandes échelles qu'avec les méthodes traditionnelles. Et aussi, ça a un intérêt dans des endroits comme la Guyane où tu as des zones un peu encore éloignées, difficiles d'accès et tout. Tu vas, tu échantillonnes tout le cours d'eau dans quelques semaines. Ça va prendre beaucoup moins de temps que t'arrêter, faire des inventaires, sortir le poisson et tout. Mais enfin,
ouais.
Après, c'est pas les mêmes informations non plus.
Oui, les deux sont complémentaires.
Exactement, ça dépend de ce que tu veux faire et comment tu veux échantillonner.
Non, mais c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Au niveau de vos principaux résultats, qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est-à-dire que là, donc, l'idée pour vous, c'était de comparer à la fois des zones impactées par l'humain et d'autres qui l'étaient moins, de regarder la diversité aussi bien au niveau des rôles occupés par ces animaux que le nombre d'espèces. Qu'est-ce que c'était vos principales découvertes?
Mais, du coup, bon, déjà, la première partie de ma thèse, c'était d'optimiser cette méthode qui est assez nouvelle pour échantillonner des poissons. Et encore plus dans les milieux tropicaux et encore plus pour l'appliquer à le suivi des impacts humains. Donc déjà, on a vu qu'en fait, on pouvait discriminer avec cette méthode des sites impactés et non impactés, même si c'était relativement proche. Donc ça, déjà, c'était assez chouette. Et ensuite, du coup, on a trouvé que dans les grands fleuves, on a plutôt des effets qui s'accumulent parce que souvent, ils ne sont pas impactés directement et que ça en résulte dans une perte significative de nombre d'espèces, mais aussi du nombre de traits. Alors que dans le petit cours d'eau, donc, qui sont impactés plus localement, on va avoir peut-être pas, on n'a pas eu d'érosion de nombre d'espèces ni de la richesse fonctionnelle, mais on a eu plutôt un remplacement. En fait, on a passé des communautés où il y avait beaucoup d'espèces benthiques qui se nourrissaient des algues, à une majorité d'espèces pélagiques, des tritivores. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ça s'est vu que comme le fond, il est complètement détruit, du coup, les espèces benthiques vont être remplacées par des espèces pélagiques, donc de la surface. Et aussi, les forts taux de turbidité, du coup, vont faire que les espèces qui dépendent de salgues, les phytophages, ils ne vont pas pouvoir se nourrir.
Ils ne peuvent plus y rester, ouais.
Par contre, ça va favoriser, on va dire, les espèces qui vont pouvoir se nourrir de la matière en décomposition et de la matière organique.
Mais au final, ça veut dire que le fleuve est plus touché que les petits cours d'eau, puisque en gros, il accumule les différentes dégradations des petits cours d'eau, ou pas vraiment?
Il est touché différemment, en fait. Il est touché par tout un changement progressif.
Mais par exemple, ces modifications-là du fond dont on parlait suite à leur paillage, ça, c'est quand même beaucoup plus les petits cours d'eau que le grand fleuve.
Oui.
Donc ça, c'est plus ça qui est touché. Et ça, peut-être que c'est difficile à mesurer, hein, ça me vient comme ça. Mais est-ce que, par exemple, ces fameux poissons qui vivaient sur le fond et qui, du coup, ne peuvent plus y vivre parce que le sol a été détruit, etc., est-ce qu'ils vont se déplacer? Est-ce qu'ils vont aller ailleurs? Ou est-ce que juste ils vont disparaître parce qu'ils n'arrivent plus à vivre là?
On ne peut pas trop savoir qu'est-ce qui se passe avec eux.
C'est le mystère. Non, mais c'est vrai que je me demande, est-ce qu'ils peuvent se déplacer? Mais comme on le disait, c'est vrai que selon la zone du cours d'eau, il n'y aura pas les mêmes aliments, ils ne pourront pas forcément trouver ce dont ils ont besoin.
Donc et après, souvent, c'est des poissons qui ne se déplacent pas beaucoup aussi.
Bah oui, c'est ça
le problème.
Donc ils restent un peu bloqués dans une zone où ils ne peuvent plus vivre.
Et qu'ils sont très dépendants, très territoriaux et très dépendants de leur habitat spécifique.
Ouais, donc à part essayer de protéger des zones où ils sont adaptés, il n'y a pas grand-chose à faire.
À part arrêter l'impact
de leur paillage.
De leur paillage et de la déforestation, parce que moi, dans ma thèse, je me suis aussi intéressée à l'effet plus global de la déforestation.
Et parce que du coup, c'est vrai que déforestation, on arrache les arbres, mais quel impact ça va avoir directement sur l'eau, en fait?
Parce qu'en fait, ça va créer de l'érosion et ça va rajouter, encore une fois, de la matière en suspension.
Donc il y a plus de terre, de choses comme ça qui vont se retrouver dans les cours d'eau.
Oui, et aussi, tu vas avoir plus de lumière qui rentre dans l'eau et du coup, des augmentations de température, donc pas toutes les espèces qui vont pouvoir résister à ça. Et tout ça.
Oui, donc ça change quand même beaucoup la composition de l'eau. Ouais. Et pour finir, je me suis dit, vous avez commencé récemment un postdoctorat en Italie sur des thématiques différentes. On quitte la Guyane, donc à l'université de Milan. Mais je voulais savoir, sur quoi allez-vous travailler?
Donc maintenant, je m'intéresse au processus de fonte de glaciers.
Donc rien à voir, on passe de la forêt tropicale au glacier.
Et du coup, on veut voir les processus de recolonisation des organismes terrestres dans ces centres qui ont été déglacés.
Oui, on peut dire ça,
Et du coup, je m'intéresse à voir quelles sont les espèces qui vont se mettre en place en premier, avec quel trait, à quel rythme. Et pareil, on utilise la méthode d'ADN environnemental, sauf que là, on ne va pas filtrer de l'eau, on prend des échantillons de sol.
Mais pas de glace, du coup.
Non,
c'est vraiment juste le sol.
Le sol où il n'y a plus de glace et on a plusieurs fenêtres temporelles pour voir un peu la succession. Et du coup, là, c'est une approche multitaxon. Ça veut dire qu'on a plusieurs organismes. On a des plantes, on a des bactéries, des champignons, des invertébrés.
Et l'idée, pareil, c'est de voir qui arrive en premier, quelles sont les conditions nécessaires. J'imagine que vous comparez plusieurs glaciers, plusieurs zones aussi dans le glacier.
Exactement, parce qu'on a une base de données globale. Donc on peut, par exemple, s'attendre à que dans les milieux tropicaux, on a un taux de recolonisation plus rapide que dans les milieux tempérés. Ou, enfin, c'est le genre de questions à quelles on s'intéresse. Est-ce que dans le processus de colonisation, on va avoir une succession d'espèces ou plutôt une accumulation d'espèces ou des choses comme ça?
Donc il y aura sans doute moins de variétés qu'avec les poissons, mais un enchaînement tout à fait différent.
Ouais, exactement. Oui.
Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Isabelle, d'être venue nous parler des poissons des rivières guyanaises et donc des glaciers et de leur faune. On attend vos prochaines découvertes avec impatience, peut-être pour une prochaine émission. On finit, comme d'habitude, par quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous conseiller un film documentaire et un livre. La plus grande source d'inspiration de ma chronique sur les cyclidés provient d'un documentaire rétro, Vintage Sway, conseillé par mon ami Naïs. Il s'agit du film documentaire en anglais intitulé Cyclids of Lake Tanganyika, Jewels of the Rift, à savoir Cyclidés du lac Tanganyika, joyaux du Rift. Ce film de la National Geographic Society, filmé par Victoria Stone et Mark Dibble, date de 1996. Même si la qualité d'image est aujourd'hui datée, le film nous emmène pendant près d'une heure à la découverte de toute la diversité incroyable d'espèces de cyclidés qui habitent ce lac. Danse colorée, sélection de partenaires, défense des œufs, tromperie et tricherie sont au programme. On y croise aussi des tortues maladroites, des aigles pêcheurs et des loutres aventureuses. En bonus, le film est narré via la voix profonde et charismatique d'Avery Brooks, l'acteur qui incarne Benjamin Sisko, le héros de la série Star Trek Deep Space Nine. Parfait pour plonger dans un autre monde. L'intégralité du documentaire en anglais sous-titré est visible sur YouTube. Je vous mettrai bien entendu le lien sur Internet. Je voulais ensuite vous conseiller un des rares livres en français sur le comportement des poissons. Il s'agit de l'ouvrage « Les poissons font-ils l'amour ?» et autres questions insolites sur les poissons, écrit par Jacques Brûlé et Jean-Pierre Quignard et publié en 2009 aux éditions Belin. L'ouvrage de 255 pages présente en chapitres courts, de 1 à 5 pages chacun, classés par ordre alphabétique, des explications simples à des questions complexes et originales. Y a-t-il des soins parentaux chez les poissons? Existe-t-il des poissons homosexuels? Voient-ils les couleurs? Peuvent-ils voir dans le noir? Comment font-ils pour survivre dans l'eau glacée? Boivent-ils? Font-ils pipi? Ont-ils un zizi? 72 interrogations diverses, variées, drôles, voire cocasses, trouvent leurs réponses dans cet ouvrage de qualité et très bien vulgarisé. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse et à la Technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur Internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche.